Bonsoir les amoureux des livres et des apéros. Un écrivain, c'est un menteur. Ce n'est pas du tout ami avec la vérité. Ça n'aime que le double fond, le double jeu. C'est pas fiable, ça fabule, ça brode. Rien de plus mystificateur qu'un écrivain. Et ici, au Salon du Livre, nous sommes entourés par des malhonnêtes. Mais ma parole, mais vous n'avez rien compris. S'énerve la littérature. Oh, la bêtise de Dupont-Mono, c'est pas un mensonge en tout cas. Mais c'est l'inverse. Un écrivain, ça adore la vérité. Et ça passe son temps à vouloir la rétablir. Pourquoi croyez-vous que Gustave Flaubert allait vérifier les lieux pour les restituer dans ses romans? Il vérifiait même le menu des restaurants. Et Zola, il mettait un point d'honneur à tester la réalité avant de la rendre. Et Victor Hugo, il écrivit « Chose vue, c'est pas pour rien !» Sans parler de tous ceux qui veulent réparer un oubli de l'histoire ou une injustice, bref, qui sont animés d'un souci de vérité. Et si vous en doutez encore, alors lisez le formidable Romain Gary s'en va en guerre, signé Laurent Sexic, publié chez Flammarion. Romain Gary avait un père et une mère. Jusque-là, c'est normal. Sa mère, Nina, il en a parlé. Magnifique personnage de femme artiste, déçue, un poil envahissante. Mais son père, Romain Gary se l'est inventé. Il a toujours laissé entendre que son père était un immense acteur russe nommé Ivan Mosjoukine. Et non, nous dit ce roman, démasqué. Laurent Sexic raconte 24 heures de la vie de Romain Gary quand il s'appelait Roman Katchev, âgé d'une dizaine d'années, dans le ghetto de Vilno, aujourd'hui Vilnius, en Lituanie, en janvier 1925. Et voilà son père, tiens, pas du tout grand acteur russe, hein, plutôt déserteur de domicile conjugal. Un brave homme déchiré entre Nina, son épouse, et la fraîche nouveauté d'un amour. Déchiré entre Roman et le fils qui va bientôt naître de sa liaison adultère. Un père fourreur, sur le déclin, incapable de protéger les siens, mais qui, sans le savoir, alimentera l'imaginaire futur de son fils. Alors, le temps d'un apéro au Salon du Livre de Paris, nous partagerons un amuse-bouche avec Laurent Sexic, avec un verre de Dekhmé, c'est de la vodka lituanienne. Pardon, c'est pas le Maroc pour nous, mais c'est la Lituanie. Il nous livrera ses mécanismes d'écriture gardés comme un secret, ce sera le procès-verbal. Nous révélera ses vices culturels aussi cachés qu'une recette de bortsch. Avant qu'un libraire, nous sommes ici dans son paradis, ne vienne adouber nos illusions comme seule vérité.
France Inter. L'amuse-bouche. Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Laurent Sexic.
Bonsoir Clara.
Vous avez des petits problèmes avec votre casque?
Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit en effet ici.
Ils sont venus en nombre les gens, c'est plutôt bien.
C'est très agréable.
La rumeur disait que le père de Romain Gary était l'acteur russe Ivan Mosjoukine. Pourquoi Ivan Mosjoukine?
Alors ce n'est pas la rumeur qui a commencé par dire ce qui devait s'avérer être un mensonge, c'est Romain Gary lui-même. En réalité, c'est Roman Katchev qui, dès l'âge de 14 ans, 15 ans, alors qu'il débarque à Nice de sa Pologne natale, de sa ville de Vilno natale, qui était polonais, qui était une ville lituanienne mais qui était polonaise à l'époque, il débarque à Nice. Il a vu quantité de films avec sa mère, Nina, à Vilno, ayant pour acteur Ivan Mosjoukine. Ivan Mosjoukine, c'est le plus grand acteur de l'époque, du cinéma muet russe. Et lorsqu'il débarque à Nice, il voit que cet acteur, il vient très souvent en villégiature. Et là, dès l'âge de 15 ans, avant donc d'inventer Émile Ajar, avant même de bâtir la légende de sa mère, avant d'écrire son premier roman, il dit, sur la promenade des Anglais, se promenant, voyant Ivan Mosjoukine sur la terrasse du Negresco, vêtu d'un vison, portant des bagues, entouré de starlettes, comme tout acteur qui se respecte, comme tout grand acteur qui se respecte, il dit à ses camarades, vous voyez l'homme là-bas, ce type immensément connu, cet immense acteur, c'est mon père. Mais nous avons convenu d'un pacte. Comme je suis son fils illégitime, je n'ai pas le droit d'aller l'embrasser. Voilà d'où commence pour moi la légende de Gary. Au-delà de cette mère, vous l'avez dit, extrêmement envahissante, magnifique mère, mère somptueuse, mère dévorante, il y a la légende d'un père qu'il a commencé à écrire très jeune. Alors à 14 ans, on peut inventer un père imaginaire comme à 10 ans, on a un ami imaginaire. Ce qu'il y a de plus troublant, ce qui est à l'origine de ce livre, Romain Gary s'en va en guerre, c'est que jusqu'à sa mort, il fera croire, jusque dans le dernier entretien qu'il aura avec Roger Grenier avant de se donner la mort quelques mois avant, je suis né de deux acteurs russes.
Alors, cela dit, Laurent Sexic, vers la soixantaine, Romain Gary, il a contredit cette rumeur. On a retrouvé un son de lui en 1972.
On dit à Paris que mon père était l'acteur, la grande vedette du cinéma muet.
On dit que vous êtes le fils d'Ivan Modjoukine. Alors,
tout ça est absurde. J'ai un extrait de naissance qui dit que mon père légal est ce monsieur dont je vous dis qu'il est mort dans le chambre à gaz. Alors je dois dire, non, c'est pas lui, c'est un autre. J'ai choisi le papa qui me convient le mieux ou quoi? Alors ceux qui le disent, qu'ils produisent leurs preuves, et s'ils ont des souvenirs, des confidences de ma mère, je voudrais qu'ils me disent quand ma mère leur a fait ses confidences. Et puis finalement, cher ami, vraiment, est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un au monde que ça intéresse?
Ben oui, vous, Laurent Sexic, vous ne le savez pas, Romain Gary, mais...
Pas que moi, j'imagine. C'est le même homme qui, quelques années plus tard, jurera devant tous les micros « Je ne suis pas Émile Ajar ».
Donc il jure, mais il devrait faire de la politique, en fait, non? Peut-être un peu.
Il s'y est risqué, ce n'est pas la meilleure voix qu'il ait pu utiliser. C'était un immense humaniste, dont la voix, aujourd'hui, doit se faire entendre. C'est un universaliste.
Pour ça qu'il vous intéresse autant, parce que vous avez dédicacé votre thèse de médecine à Romain Gary. Pourquoi ça vous prend au cœur comme...
Alors, en réalité, j'ai dédicacé à quatre noms, à Stéphane Zweig, à Romain Gary et à deux autres noms. Et c'est vrai qu'il y a une vraie continuité. Et j'ai écrit les derniers jours de Stéphane Zweig. Je réécrirai sur les deux prochains noms, j'espère. Alors j'avais mis juste mes initiales, les initiales SZ et RG, parce que je ne voulais pas que mes professeurs de médecine voient la passion coupable qui était la mienne pour la littérature. Mais au-delà de l'anecdote, c'était il y a 25 ans maintenant cela, il y a une vraie continuité pour moi entre Stéphane Zweig et Romain Gary, dans leur une proximité affective, dans leur humanisme, dans l'universalisme, mais aussi dans leur psychologie de la femme. Ce sont des gens qui ont parlé merveilleusement des femmes, dans leur combat aussi, dans leur fin tragique évidemment, dans le fait que tout leur a été donné et que tout leur a été repris. Et moi, j'aime à penser que Stéphane Zweig est mort, s'est donné la mort en février 1942. Romain Gary a écrit son premier roman en 1943. Il a commencé l'éducation européenne. J'aime à penser qu'il y a une sorte de passage de flambeau, de passage de témoin entre Zweig et Gary.
Si Gary a caché l'existence de son père, qui s'appelle donc Arié, c'est le vrai papa, pourquoi il en avait honte? Pourquoi il n'a rien dit sur lui? Pourquoi il s'est inventé un autre père?
Alors en réalité, il a simplement, à part cet extrait-là, écrit 15 lignes sur ce père-là dans La promesse de l'aube. Et après, il n'est plus jamais revenu et Dieu sait combien il s'est exprimé sur sa propre vie. Ce mystère-là, alors j'ai mis 2 ans à l'explorer, je ne pourrais pas le résumer, mais il y a eu d'abord ce traumatisme d'un fils abandonné, d'un fils qui voit son père partir. Romain Gary s'en va en guerre, c'est une histoire toute simple, c'est l'histoire d'un gamin qui voit son père abandonner sa mère. Il se trouve que ce gamin deviendra Romain Gary. Il se trouve que ce gamin remplacera la figure du père auprès de la mère. Le remplacera si bien qu'il réalisera tous les vœux de sa mère. C'est ce qui est exceptionnel. Toutes les mères ont des vœux, ont 1000 vœux pour leur fils. Mais il est extrêmement rare qu'un fils réalise chacun des vœux de la mère. Il a été diplomate comme sa mère le rêvait. Il a été un grand écrivain comme sa mère le rêvait. Il a été séducteur. Il a conquis le cœur de dizaines et de dizaines de femmes comme sa mère le rêvait. Il a coché toutes les cases.
Mais alors si vous dites que c'est la mère à l'origine de la vie de Romain Gary, quel rôle a joué son père être aussi important?
Son père, dans son absence, a joué pour moi un rôle fondamental. C'est-à-dire que cet homme qui toute sa vie a couru après la reconnaissance publique, après la reconnaissance des critiques, à tel point qu'il a, quelques années avant sa mort, changé de nom, qu'il a pris un autre pseudonyme, pour moi, mais c'est pas un thriller psychologique, mais à mes yeux, cet homme éperdu de reconnaissance, qui est mort pour cela aussi, qui s'est donné la mort pour cela aussi, était avant tout en quête de la reconnaissance d'un père.
Alors, vous parlez de la mère de Romain Gary, que vous appelez Nina, dont le prénom en réalité est Mina. Alors, elle, c'est un sacré morceau, si je peux me permettre,
le prénom pour l'état civil était Mina, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Romain Gary a toujours appelé Mina, Nina. Paul Pavlovitch, qui a été Émile Ajar, qui est un des premiers lecteurs de mon roman, me l'a confirmé. Quand vous lisez La promesse de l'aube, il n'appelle pas Mina,
il l'appelle Nina.
Donc le véritable nom, en dépit des biographies, qui sont souvent excellentes d'ailleurs, de Romain Gary, j'ai appelé la mère de Romain Gary comme Romain Gary l'appelait.
Elle, c'est pas une femme en paix. Elle a un côté très torturé. Vous savez à qui elle nous a fait penser? Elle nous a fait penser à l'actrice Gloria Swanson, je le prononce pas bien, mais dans Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder en 1951.
Je ne pourrais plus vivre sans toi.
N'espérez pas me faire changer d'avis.
Regarde,
Tu ne me crois pas? Tu supposes que je n'aurais pas le courage?
Oh si, et cela ferait une très belle scène.
Ma mort t'indiffère, mais elle fera pleurer des milliers d'admirateurs.
Oh, réveillez-vous, Norma. Vous jouez votre scène devant une salle vide. Les spectateurs l'ont quitté depuis 20 ans.
Erreur! Ils réclament
tout. Ils vous ont oublié.
Personne ne quitte une vedette.
Personne ne peut m'oublier, dit-elle. Et pareil pour Romain Gary. Mais alors, Nina, c'est quoi? C'est une artiste malheureuse ratée?
C'est une grande mythomane. C'est une femme qui s'est inventée déjà. C'est-à-dire qu'elle n'a cessé de dire, même à son propre fils, j'ai été une immense actrice. Non seulement son fils l'a cru, mais son fils a continué à perpétuer la légende, puisque jusqu'à sa mort, donc, il a dit ma mère est une immense actrice, a été une immense actrice, qu'il a dit qu'elle avait joué sur les plus grands théâtres à Moscou, ce qui est totalement faux.
Ce qui est faux, oui.
Donc en réalité, c'est vrai que ce goût de l'histoire, ce goût de la narration, ce goût du conte qui font de Gary un des écrivains les plus grands aujourd'hui, il le tient de sa mère. Son angoisse existentielle, pour moi, il le tient de son père, il le tient de la disparition tragique de son père, il le tient de ce drame qu'il n'a finalement jamais exploré que dans un seul livre, La danse de John Liskun. Il y a ces deux versants dans toute l'œuvre de Gary et dans l'humanité de Gary.
Et le père, Arié, chavire encore un peu pour la mère, quand même, pour Nina. Il l'a quitté, il est parti avec quelqu'un de plus jeune. Tout le monde n'est pas Emmanuel Macron, aussi, hein, mais voilà.
Oui, la comparaison est audacieuse, mais...
Et il l'a un peu dans le cœur, quand même, la Nina.
C'est une femme, à mes yeux, qu'on n'oublie pas. C'est une femme avec qui Arié a vécu des moments heureux. C'est une femme avec qui on ne vit pas non plus. C'est une femme qui était un peu folle, sans doute. C'est une femme... Aujourd'hui, on dirait qu'elle est bipolaire. Ce qu'on sait peu, c'est que Romain Gary l'était bipolaire. Romain Gary était un être profondément dépressif, était sorti de sa dépression lors de longues hospitalisations psychiatriques. C'était un être que l'on dirait aussi peut-être aujourd'hui bipolaire. Penser que c'est un homme qui était capable d'écrire en même temps et d'une seule main, au-delà de ce ticket, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, et gros câlin. C'est un homme qui était capable d'écrire Clair de femme et La vie devant soi. Sous deux noms différents, sous deux plumes différentes, sous deux âmes différentes, qui se rapprochaient malgré tout justement dans ce souci d'aimer, dans ce souci d'être aimé.
Et le lien du père vers Romain Gary, de Arié vers Romane, il est pétri de culpabilité, parce qu'à un moment vous dites que malgré tout ce que lui dit sa mère, Romane Katchev, Romain Gary petit, n'arrive pas à détester son père. Le lien qu'il y a entre le père et le fils, vous le définiriez comment ?
C'est un lien non seulement charnel, non seulement qui vient du sang, mais c'est un lien qui est extrêmement fort, malgré ce qu'a pu toujours dire Gary. En témoigne cette photo extraordinaire de Romain Gary et de son père en 1933, alors que Romain Gary vient d'avoir son baccalauréat en France, il est retourné voir son père à Varsovie, et on les voit marchant tous les deux dans les rues de Varsovie. Une photo que sans doute il n'aurait pas reconnue durant longtemps. Il y a cette relation père-fils, c'est un peu le fil conducteur aussi de mes écrits. J'écris le cas Edouard Einstein, c'est un peu là l'inverse. Le cas Edouard Einstein, c'était l'histoire du fils d'Einstein, histoire totalement oubliée, passée sous silence, histoire du fils d'Einstein schizophrène, qui était quasiment, on peut le dire, abandonné par Albert Einstein pour des raisons qui s'expliquent. Là, c'est un peu l'inverse dans ce livre, Malgré il s'en va en guerre. C'est l'histoire d'un père passé sous silence.
On s'est demandé ce qu'aurait pu fredonner Romain Gary dans les rues de Villeneuve, Laurent Sexic. Et on a trouvé, c'est J'ai 10 ans d'Alain Souchon, forcément, Tarte à gueule à la récré.
Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarte ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tarte ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais en baiser et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des bibles à mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la Sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans.
La Muse-Bouche sur France Inter.
Laurent Sexic est avec nous au Salon du Livre à Paris pour son roman Romain Gary s'en va en guerre, qui révèle le vrai père de Romain Gary. Ce dernier, toute sa vie, s'était inventé un père, et voilà le vrai en roman. Il s'appelle Arié, il était fourreur, et pas n'importe où.
Y'a toi, t'es vina, mon surtout, d'une ville où jamais.
Nous sommes à Vilno, devenu Vilnius, et ce qu'on vient d'entendre, c'est l'hymne national lituanien depuis 1919. Laurent Sexic, pourquoi on surnommait Vilnius la Jérusalem de Lituanie ?
C'était une ville qui comptait à la fois une très forte communauté juive, 60 000 âmes, toutes disparues. Toutes sauf finalement Romain Gary et sa mère, qui en quelque sorte a été sauvée grâce à l'abandon de ce père. C'est toute l'ironie de cette histoire. C'est qu'en quittant sa mère et en lui permettant de partir vers d'autres rêves, on parlera de la France, rêve immense, rêve somptueux de Nina Katchev de l'époque, son mari lui a permis d'être une des rares survivants et nous a finalement donné cet écrivain. Nous a donné. Donc il y a là un abandon, une trahison d'un père qui va donner la vie, qui va accoucher de la vie. Et Vilnius était une ville avec une forme de richesse intellectuelle extrêmement vivace, extrêmement profonde, et donc qui a beaucoup compté et qui en effet était appelée la Jérusalem de Lituanie.
Et Arié ne voit pas le danger venir, il pense pas à partir. On est en 1925, il y a eu les pogroms déjà, et il ne veut pas partir.
Non, il ne veut pas partir parce que partir où ? Nina, lorsqu'elle part en France, elle n'est pas accueillie à bras ouverts. Elle est comme tous les étrangers. À l'époque, c'était extrêmement difficile. Et puis, comme chacun d'entre nous, c'est un homme assez heureux, assez jovial, ancré, qui avait les deux pieds sur terre, comme contrairement à Nina, qui avait la tête dans les nuages. Et donc, c'est un homme qui sentant malgré tout la menace, mais peut-être pas comme Nina, n'avait pas pu d'ailleurs, simplement, et puis n'avait pas rêvé de partir. C'est un homme qui voyait l'avenir, où, là où il se trouvait, comme beaucoup d'entre nous, et donc qui a construit sa vie, pas à pas, qui s'est remarié avec une autre femme, Frida, une jeune femme, vous l'avez dit, qui a eu 2 enfants, Valentine, une fille, et puis un fils. Ce qu'il y a aussi d'étonnant dans les mensonges ou dans les secrets de Gary, c'est que Gary n'avait jamais dit qu'il avait un demi-frère. C'est un des personnages de Romain Gary s'en va en guerre. Joseph était le demi-frère de Gary. Donc ce qu'on a toujours cru, c'est-à-dire que Nina, cette mère généreuse, dévorante, on avait toujours pensé qu'elle avait un fils unique, qui était Romain Gary, qui était Roman. En réalité, elle avait eu un autre fils, qui était mort cette année-là, donc vous parlez, où se situe le livre. Et donc il y a plusieurs absences dans l'œuvre de Gary. Et dans cet homme qui a, sa vie durant, construit des pseudonymes, parce que Hajar n'était pas le premier de ses pseudos, il y a eu ce manque-là, pour moi, ce manque de père et ce manque d'un frère, qui ont fait qu'il a construit des personnages, et qu'il a vécu à travers ces personnages, et qu'il a sans doute fait vivre les êtres qu'il a aimés, mais dont il n'a pas parlé à travers ces personnages.
Vous parliez tout à l'heure des événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Arié, le père, va s'y heurter. À la fin du livre, vous mettez dans la peau d'un SS. Ça fait comment pour un écrivain de se mettre dans la peau d'un SS ?
Alors la fin était... en effet, j'écrivais la fin du père de Romain Gary. Il y a quelque chose qui était plus terrible que cela, c'est que j'écrivais la mort du père de Romain Gary en même temps que j'assistais à la mort de mon propre père. Et il y a sans doute dans ces pages-là quelque chose de la douleur d'un fils d'un fils en train de perdre son « je perdais mon père », et peut-être que cette torture qui était infligée à Arié Katchev, c'était celle que je voyais infligée à mon père, et voilà, je fermais les yeux de mon père au moment où je fermais les yeux du père de Gary. Donc il y avait quelque chose de terrible, de saisissant. Je ne sais pas si l'écriture ne console pas de la perte d'un être cher.
Non, jamais.
Mais elle aide parfois, peut-être les lecteurs, en tout cas l'écrivain que j'étais, à affronter cette terreur de cette perte. D'autant que ce roman, mon père était mon premier lecteur, et donc ce roman était le seul qui n'ait pas lu, même si je lui avais dit avant qu'il ne tombe gravement malade, le sujet de ce livre, Romain Gary s'en va en guerre, et que cela nous avait ramené tous les deux à ces instants où j'avais 20 ans, où j'étais étudiant en médecine, et où du haut de notre balcon à Nice, lui me disait, pour m'encourager pendant mes études de médecine, tu seras un grand professeur de médecine, peut-être que tu auras le prix Nobel de médecine. Et moi, je voyais au fond l'église russe et le lycée du Parc Impérial à Nice, où nous habitions, et je rêvais plutôt d'un destin d'écrivain et d'un destin d'écrivain à la Gary.
Nina, vous l'avez dit tout à l'heure, Laurence Seksik, la mère de Romain Gary, elle veut partir. Et vous l'avez dit aussi, pas n'importe où, elle veut partir en France. Elle adore notre pays. Ça existe encore, mais oui. Et ça, Romain Gary, il s'en souvient.
C'est une obsédée de la France. Elle était obsédée par la France, comme d'autres sont des obsédés sexuels. C'était une francophilie dévorante. Et pour elle, la France était un pays catholique, et comme elle n'était pas au fond croyante du tout, elle a accompli ce geste suprême de naturalisation.
Il parle d'obsession quasi-sexuelle de Nina pour la France. Alors de quoi se nourrissait cette obsession ? Pourquoi ?
Alors, et c'est drôle, si vous avez bien écouté, il parle de naturalisation et de France chrétienne ou catholique, alors que ça n'a rien à voir. C'est drôle, donc lui-même, il y avait des ponts entre la religion, la nationalité. C'est très, très curieux ce qu'il dit là, quand on l'écoute. Cet amour de la France venait avant tout des livres. C'était une amoureuse de la littérature et une amoureuse de la littérature française. Et puis, c'était une amoureuse de ce pays qui faisait tant rêver à l'Est, qui faisait rêver les Russes, qui parlaient français pour beaucoup avant la Révolution. Et puis, de cette Jérusalem de Lituanie qui rêvait beaucoup à la France, cette France qui avait défendu Dreyfus, cette France qui s'était battue, qui s'était entre-déchirée. Donc, ce rêve, c'était un rêve de terre promise, en réalité. Et cette terre promise s'appelait la France.
Et la Seconde Guerre mondiale arrive et je ne suis pas sûr que ça reste une terre promise à ce moment-là.
Alors ce qui est terrible, c'est qu'elle qui avait quitté en effet Vilno en 1925, voyant la menace poindre ou la sentant confusément arriver, elle se retrouve en 40 à Nice avec le drame que l'on sait. Et donc il y a une espèce d'ironie du destin et de boucle qui tragiquement, de monde qui se referme.
Pour ne rien arranger, Laurence Seksik, chez les Gary, la famille est un petit peu chaotique. Et puis surtout, on mange un bout de viande qui surnage dans une sauce transparente. Ça, je vous cite. Le pain est rassis, il n'y a plus de meubles. Quelle trace Romain Gary va garder de l'expérience de la pauvreté ?
À la fois quelque chose d'extrêmement rude, parce qu'en effet, il faut savoir que Nina Gary est partie comme une voleuse de Vilno. Elle avait la police quasiment à ses trousses parce qu'elle avait tenté de vivre de petites choses après que son magasin de modiste eût été fermé. Elle avait des dettes, elle croulait sous les dettes. Et donc, c'est ce qui lui a permis de revenir à Nice et d'à nouveau de rebâtir sa vie. Il a gardé de la misère ce goût de la souffrance, enfin, cette compassion pour la souffrance humaine dans son œuvre, ce goût pour les faibles, pour les perdants, pour les tourments des perdants, en fait.
Et il en a gardé un petit goût pour le luxe aussi, ou
alors,
pas ?
Il en a gardé aussi quelque chose de aussi. Quand vous lisez La Promesse de l'Aube, il y a une splendeur, il y a une espèce de nostalgie de ce temps-là. Il l'a sublimé, il l'a magnifié, cette pauvreté, cette rue Grande Paulanka qu'on imagine tous avoir connue, tellement on l'a lu dans La Promesse de l'Aube, que j'ai essayé de redécrire dans Romain Gary s'en va en guerre. C'est un endroit merveilleux, terriblement pauvre, comme cette ville de Vilno l'était, mais où il a été heureux parce qu'il y a vécu sa jeunesse. Ce que je décris, c'est 24 heures de la vie du jeune Romain Gary à 10 ans.
Et pourquoi ces 24 heures ? Pourquoi est-ce que vous vous isolez comme ça deux jours de janvier 1925 ?
Parce que Alors avant, parce que j'aime les moments où le destin bascule. Alors c'est sans doute ce que j'ai appris avec Zweig en le lisant et en écrivant sur lui. J'aime ces moments où le destin va ouvrir une porte vers un ailleurs. Et pour moi, c'est ce moment-là du 26 janvier 1925 où Romain Gary croise son père avec une autre femme après qu'il lui ait menti. J'aime à dessiner finalement à éclairer toute l'histoire de Gary à travers ce seul instant-là. Comme j'avais fait pour les derniers jours de Stefan Zweig, j'ai essayé d'écrire à partir du 22 février 1942, d'éclairer finalement tout le destin d'un homme.
Donc vous êtes l'écrivain du point de bascule.
Oui, si vous le dites
comme
ça.
Oui, c'est un compliment.
Oui, très très bien, je le prends
comme
tel.
Écoutez, Laurence Texier, ce que disait Romain Gary pour terminer sur son enfance.
Je crois que le jour où je m'éloignerai complètement de mon enfant, je ne pourrai plus écrire, je ne serai plus un romancier. Je crois profondément, d'ailleurs, avec Freud, que la fonction créatrice est très profondément liée à l'enfance. Tuer l'enfant dans l'adulte, c'est vraiment tuer tout rapport avec la créativité.
Donc l'enfance, c'est la clé de Romain Gary.
Oui, j'ai parlé de mon père, c'était ce qu'il me répétait. Il me disait « tu regardes le monde avec des yeux d'enfant ». Je ne voyais pas trop ce qu'il voulait dire, mais je crois qu'il y a de cela en tout cas. En effet, il y a une forme d'innocence face au monde. Il y a la nécessité pour tout écrivain de redécouvrir le monde à chaque fois, de redécouvrir peut-être une émotion que l'on a eue dans l'enfance, une émotion qui vous a accompagné au long de l'adolescence. Moi, pour Gary, je passais devant le lycée du Parc Impérial à l'âge de 14 ans. Gary ne s'était pas encore donné la mort et je rêvais de son œuvre tant La promesse de l'aube m'avait ébloui.
Et pourtant, si on résume. Un frère mort, vous l'avez dit tout à l'heure, une séparation des parents, plus d'argent, une mère un petit peu caractérielle quand même. Comment est-ce que Romain Gary, du haut de ses 10 ans, fait-il pour absorber tout ça, pour digérer ce choc-là? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Ses armes, c'est quoi? Ses ressources, c'est quoi?
C'est l'imaginaire. C'est surtout d'avoir gardé son innocence, c'est cet espoir que lui a tellement transmis sa mère, c'est aussi cette force que lui a transmis son père. Et avec cela, il va, à partir de ces seules émotions-là, écrire tous ses livres. Parce que dans tous ses livres, il y a cela, ce dont vous parlez.
Laurence Texier, qu'il est temps de nous révéler vos secrets d'écriture à vous, parce qu'on parle de ceux de Romain Gary, mais les vôtres. C'est l'heure du procès-verbal. Votre nom?
Sexic.
Vous avez hésité, hein? Votre prénom?
Laurent.
Vous écrivez assis, couché ou debout?
Assis.
Sur ordinateur ou sur papier?
Sur ordinateur avec un cahier sur lequel j'écris également.
Et vous écrivez à la main, stylo plume, bic ou crayon à papier?
Comme je perds tous les stylos depuis l'enfance, je prends ce qui me tombe sous la main.
Vous êtes chez vous ou vous êtes au café?
Je suis chez moi.
Musique ou silence?
Silence.
Quand vous levez la tête de votre bureau, qu'est-ce que vous voyez?
Alors je vois une lettre qui me commande d'écrire et que j'ai reçue de la main de Jean-Marie Lecrézieux lorsque j'avais 21 ans j'étais à Nice et je cherchais à partager ma passion de l'écriture j'étais étudiant en médecine et ce n'était pas la meilleure voie pour devenir écrivain. J'écrivais un manuscrit tous les ans, toutes les années j'envoyais un manuscrit qui m'était... Et puis un jour j'ai trouvé Jean-Marie Lecrézieux, j'ai trouvé là où il habitait, je l'ai rencontré. Je lui ai donné mon manuscrit, il m'a renvoyé par la poste une lettre que j'ai toujours et où il y avait ces phrases qui restent assez énigmatiques. Il m'a dit « Cher monsieur, j'ai lu votre roman, vous me faites penser à Céline ».
Ah bah attendez, non, c'est pas du tout énigmatique, voilà. Ça s'appelle un énorme compliment.
Voilà, c'était
c'est pas tellement mystérieux.
Et hein. Cette histoire a une fin, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai revu Jean-Marie Lecrézieux, je ne l'avais pas vu depuis 30 ans. Il venait de recevoir le prix Nobel. Je suis allé vers lui, comme j'étais allé vers lui lorsque j'avais 20 ans, en me présentant, en disant « Laurence Texier, que j'écris ». Et là, il m'a dit « Laurence Texier, que j'ai lu vos livres ». Et avec le cas Edouard Einstein, j'ai l'impression que vous êtes devenu l'écrivain que je rêvais qu'il devienne. Donc il y a une histoire qui est assez belle. Et donc cette lettre me conforte dans les affres de l'écriture.
Avez-vous un rituel avant ou pendant l'écriture? Vous tortillez les cheveux, boire de l'alcool?
Je commence par lire des poèmes de Baudelaire. Oui, c'est une espèce. C'est-à-dire, ça me. À chaque fois, vous savez, quand je suis devant ma page, c'est pas tellement l'angoisse de la page blanche. Je me dis, je n'y arriverai pas. Enfin, donc, c'est un peu l'angoisse de la page blanche. Et puis, je lis les livres que j'ai à côté. Il y a Julien Gracq, il y a Proust, il y a Flaubert. Donc, je lis quelques passages. Ça met la barre très haut, en effet. J'arrive jamais à cette ambition-là. Je recopie quelques poèmes de Baudelaire. Comme durant toutes mes études de médecine, j'ai recopié des pages de Proust. Ma mère a retrouvé si récemment ses cahiers. Donc je me nourris des grands maîtres. En médecine, on a des professeurs de médecine. En littérature, on en a aussi. Ils sont pour la plupart morts. Certains sont vivants d'ailleurs. Et finalement, cela m'aide. Et finalement, peu à peu, l'imaginaire et l'imagination commencent à... Et je me retrouve à Villeneuve en 1925.
Le téléphone sonne. Est-ce que vous décrochez ?
Ça m'arrive, pas tout le temps.
Et vous êtes d'une humeur de dogue ou la politesse résiste dans ces cas-là ?
Rarement. La politesse résiste rarement.
C'est la fin de ce procès-verbal, ça faisait pas mal.
Non,
ça allait.
Non, c'est plus.
Vous écoutez toujours la Muse-Bouche au Salon du Livre en public avec Laurent Sexic pour Romain Gary s'en va en guerre, qui lève le voile sur le père de Romain Gary. Et je voudrais vous présenter un parent de cette émission, Laurent Sexic, puisque la Muse-Bouche en compte beaucoup des parents. Ce sont les libraires et au Salon du Livre, il n'y a que ça, il n'y a que des parents. En voilà un. Bonjour maman, j'ai envie de dire. Vous êtes Nathalie Iris de la librairie Mots en marge à la Garenne-Colombes. Bonsoir.
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 Nathalie, quelle est la situation la plus farfelue que vous avez vécue dans votre pouponnière, c'est-à-dire dans votre librairie en fait, hein?
Alors c'est presque un procès-verbal là, c'est un procès-verbal bis. Écoutez, il y a quelques semaines, c'était un samedi après-midi, il faisait assez beau, fin d'après-midi, un couple relativement âgé pousse la porte de la librairie. Ils avaient bien 80 ans l'un et l'autre, mais ils étaient encore en forme. Et le monsieur, d'une voix tonitruante en poussant la porte, me dit « Ah, on vous félicite d'exister !» Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau.
On dirait une phrase de Modiano adressée à Laurent Sexic.
Oui, et puis c'est une ode au libraire, c'est une ode au libraire indépendant, et j'avais l'impression que par cette phrase... Il remerciait toute la profession des libraires qui nous donnons tant de mal pour vous donner tant de plaisir.
C'est, on vous félicite d'exister, ça pourrait presque s'adresser autant aux livres qu'aux libraires en plus.
Exactement.
Ouais, Nathalie... tous les écrivains vous félicitent d'exister.
Sans vous,
nous n'existerions pas.
Complètement réciproque.
Quel roman conseilleriez-vous à Laurent Sexic, Nathalie ?
Alors j'ai pensé à un inédit de Éric Maria Remarque que les éditions Stock viennent de publier et qui s'appelle « Cette terre promise ». Alors ça se passe, en fait c'est l'histoire d'un jeune Allemand qui va émigrer à la fin des années 30 aux États-Unis. Donc j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser, Laurent, parce que bon, c'est une période que vous affectionnez particulièrement. C'est en fait, Remarque est un contemporain de Gary, de Zweig, voilà, et puis une écriture vraiment presque magique.
Est-ce qu'il a été abandonné par son papa ?
Je ne pense pas. Je n'ai pas révisé mes fiches, mais je ne pense pas.
Vous l'avez lu, Laurent, ce livre ?
Non, ce livre, je ne l'ai pas lu. Non, de Remarque.
Vous nous redonnez les références, Nathalie, du coup ?
Oui. Alors, ça s'appelle « Cette terre promise » de Éric Maria Remarque aux éditions Stock.
Merci, Nathalie Iris, de la librairie Mots en marge à la Garenne-Colombes. On va dire merci aussi au magazine Page, la revue des libraires, un peu comme Parents Magazine, d'ailleurs, qui est partenaire de notre émission de l'Amuse-Bouche. Et puis, c'est l'heure des inavouables.
Aïe.
Ah ben, Laurent Sexic, on a beau être roi des chercheurs de vérité, on n'en est pas moins homme. Hein.
C'est vrai.
Ça, j'espère que je ne vous l'apprends pas. Est-ce qu'il y a une chanson ou un film catalogué un peu ringard, un peu kitsch, et que vous aimez en toute discrétion, parce que vous avez un peu honte, mais vous l'aimez quand même?
Oui, alors je vous ai dit, c'était le premier pas qui me ramenait à des souvenirs d'adolescence.
Le premier pas?
Oui.
De qui?
De Claude-Michel Schoenberg, c'est ça?
Schoenberg, en quelle année?
Enfin, moi, je l'ai entendu à 73, 74, j'avais 12 ans.
74,
c'est ça.
Et c'est une romance, et c'est l'histoire d'un chanteur qui tombe amoureux, en fait, de sa voisine, et ils se disent pas grand-chose, mais ils rêvent de la voir nue.
Je la rencontrerai.
Oui, au bas de l'escalier.
Au bas de l'escalier.
Et comme tous les jours, il va lui dire bonjour.
Puis, comme tous les jours, elle me dira.
Que va-t-elle répondre? Elle ne répond jamais rien. C'est ça qui m'étonnait à l'époque déjà.
Seulement cette fois.
Ah, cette fois elle va répondre. Oui.
Elle me prendra le bras.
Oui, mais ça n'arrive
direct,
pas en réalité.
Direct.
Oui.
Me conduira.
Attention.
Oui. Ah oui, oui.
Et
oui.
Dans sa maison.
Oui, ce sont mes premiers émois en fait.
Ah bah, où nous ferons.
C'est assez frontal.
Oui. Ah voilà. Oui.
Ah voilà.
Le premier.
Oui.
Pas.
Et ça, je ne saisissais pas très bien à l'époque ce que ça voulait dire. Il y avait des violons qui nous emportaient loin.
Ça a été numéro 1 en France avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Et Pierre-André Claude Michel, pas Pierre, non, n'importe quoi, Claude Michel Schoenberg, c'est le mari de Béatrice Schoenberg.
Oui, mais ça à l'époque, je ne le savais pas.
Oui, non plus, mais c'était un peu normal. Est-ce que vous avez un film qui fait partie de vos inavouables ?
Oui, alors ce que je vous disais, c'était Moulin Rouge, un film extrêmement kitsch.
Moulin Rouge de Baz Luhrmann.
Oui, oui, que je ne cesse de revoir avec beaucoup d'émotion. Voilà, c'est une actrice exceptionnelle.
Sortie en 2001.
Ouais, ouais, ouais. Et là c'est, aussi, c'est un peu de la guimauve. Hein. C'est l'histoire d'un écrivain en même temps qui est très amoureux d'une jeune femme un peu frivole et qui meurt dans des circonstances atroces. Et en même temps, la musique est charmante.
Charmante, ouais. Un peu frontale aussi quand même.
Ah, c'est pas ma préférée du même. Oui, c'est vrai. Mais c'est Your Song aussi.
C'est aussi frontal que le premier pas, je vous signale.
Oui.
Ça, mine de rien, ça a fait 1,3 million d'entrées.
Oui.
Donc vos inavouables, ils sont quand même.
Oui, non, mais c'est très. Il y a un côté très kitsch.
Il y a des plumes.
Dans ce film, voilà, il y a beaucoup de plumes. Ce sont des bons sentiments. Vous m'avez demandé quelque chose de très populaire.
Et
moi, j'adore ce début-là. J'ai oublié le nom de l'actrice qui me.
Nicole Kidman.
Voilà. Et quand on voit Nicole Kidman, on ne peut s'empêcher de penser à elle pendant des années. Et moi, ça m'a rappelé d'ailleurs le premier pas. Voilà.
Est-ce qu'il y a un classique, un grand chef-d'œuvre qui vous tombe des mains? En tant qu'écrivain, vous essayez de le lire et puis ça ne vient pas, ça ne marche pas.
Absolument, c'est Anna Karénine.
Oh Anna... non, oui, là vous me faites mal. Nathalie aussi, ça lui fait mal. Ah
bah, non, je sais, non, c'est une faute professionnelle. Alors en médecine, une faute professionnelle, c'est une erreur morale. Là c'est juste une faute de goût.
Et puis on y meurt, on peut y rester.
Là, c'est simplement une faute de goût. Je sais que c'est mal. Je la reprends régulièrement. Tous les 6 mois, je reprends Anna Karénine. J'adore voir Oblonsky après l'adultère de sa femme. J'adore aller le voir chercher Anna Karénine à la gare. J'adore voir Lévin parler de ses scrupules à tomber amoureux de Kitty. Et puis après la scène du bal, je cale.
Mais pourquoi ?
Je ne sais pas. Il y a quelque chose peut-être de... Voilà, dans le versant de la femme adultère, mon livre culte, c'est Madame Bovary, et il y a un monde entre les deux. J'adore, Tolstoï, c'est important pour moi, et c'est même capital. Guerre et paix, j'en ai plus appris sur l'épopée napoléonienne à travers Guerre et paix qu'à travers tous les livres d'histoire. Mais Anna Karénine, je cale.
Nathalie, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça vous fait mal ?
C'est mon livre préféré.
Oui, je suis désolé.
Vous n'êtes pas fait pour vous entendre. Moi, la liaison avec Vronsky, avec le drame que vit Anna Karénine... Non,
Et le suicide, à la fin.
Oui, parce que
spoiler un livre. Merci
parce
Nathalie,
que je connais
en
la
tant
fin,
que libraire.
Peut-être.
Vous venez de spoiler la fin pour tous ceux qui...
Grand livre et grand auteur, évidemment, mais je n'y arrive pas.
C'est sur ces mots définitifs que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Alors venez, que vous soyez père, mère, menteur ou juge d'instruction, vous serez les bienvenus. Romain Gary, S'en va en guerre, de Laurent Sexy, qui est paru chez Flammarion. La semaine prochaine, nous recevrons Hélène Couturier pour Il était combien de fois paru aux Dilettantes. L'amuse-bouche est une illusion entretenue par Sonia Leglen, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Christophe Michou, Stéphane Beaufils, David Anéas. Merci à Nicolas Boucard, Rémi Gouriou et Alain Fauchet pour cette installation au Salon du Livre. Bonne semaine, cher public et chers auditeurs. N'oubliez pas de mentir un peu quand même, ça fait jamais de mal. On vous embrasse et à samedi.